Όχι, αν το εγκυκλημένο κατέβει για αυτά. Διαιρεθεί totalement ce qui
soit dit, c'est libre de vous convaincre, au cas d'engage, en combinant les deux, d'attitude de maîtrise des banques, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, merci de passer ces 57 minutes interactives avec Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange et partage aux citoyens sur la fréquence de la paix. Le 17 octobre dernier, 5 vues sur 9 de la Cour constitutionnelle ont pris un arrêt autorisant le report des élections en République démocratique du Congo. Plusieurs analystes estiment que la Cour ne pouvait pas siéger contre le prescrit de l'article 90 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour et l'article 30 de son règlement intérieur qui indique que celle-ci ne peut valablement siéger qu'en présence de tous ou d'au moins 7 membres. Selon vous, quelle est la valeur devrait avoir la décision de la Cour à ce jour? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-890 pour votre intervention en direct, je l'ai dit, à l'étranger ou encore à travers le pays. Vous êtes nombreux en train de nous suivre et merci de participer au débat également sur notre page Facebook. J'ai dit Pesa Bongonda et Tosandar Piro et Lamegi à la réalisation, Sylvain Matundu à la mise en onde de ce programme, coordonné et présenté par J.R. Lungembo, Luabung Angie sous la supervision de Martin Sebou Jangwe. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
La Cour autorise la CENI à élaborer un nouveau calendrier électoral aménagé dans un délai objectif et raisonnable exigé par les opérations techniques de refonte du fichier électoral afin de s'assurer de la régularité des scrutins prévus. Alors, plusieurs voix se sont levées par rapport à cette décision de la Cour et se posent beaucoup de questions. Entre autres, la Cour pouvait-elle siéger contre le prescrit de l'article 90 de la loi ou encore l'article 30 de son règlement intérieur qui indique que celle-ci ne peut valablement siéger et délibérer qu'en présence de tous ses 9 membres. Voilà, et la dernière question, à savoir si la Cour est-elle compétente pour traiter de cette manière et enfin, la Cour est-elle habilitée à permettre à la CENI de violer l'article 73. Autant des questions que vous vous êtes posées, nous allons en débattre aujourd'hui avec Maître Kodjo Ndoukouma qui sera notre invité dans un instant. Il est temps pour nous d'ouvrir les débats avec vous. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi et Maître Laurent à Kinshasa. Maître Sonville, bonjour et bienvenue d'un parole aux auditeurs.
Oui, allô?
Maître Sonville, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, Monsieur Gier, je suis avec vous. Bonjour, Monsieur Gier, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Alors, quel est votre avis par rapport à cette problématique que nous abordons aujourd'hui?
Monsieur Gier, en tout cas, c'est une déception totale du fait que vous connaissez que la Cour constitutionnelle, les juges qui composent cette cour sont pris comme des sages de la République. Quand ces sages de la République commencent à violer leur règlement d'ordre intérieur, à ce qui concerne sur l'article 30 et sur l'article 90, c'est vraiment déplorable, monsieur J.R. Cette cour-là ne pouvait pas juger. Il y a plus de procédures. Cette cour-là a changé dans l'irrégularité totale. Tout ce qui est instituré dans l'article 90, soit disant que la cour est procédure, qu'avec au minimum, un nombre minimum de 7 juges. Et les deux juges-là, le président, doit expliquer le pourquoi de l'absence de deux autres juges. Mais nous ne devons pas comprendre comment est-ce que cette cour, qui est là pour la conservation, pour le contrôle de la Constitution, puisse elle-même violer d'abord son règlement d'ordre intérieur. C'est vraiment décevant, M. J.S. Au-delà de ça, je dirais ceci. Cette cour constitutionnelle est statue dans le délai de 30 jours, toutefois à la demande du gouvernement, si l'urgence s'est donnée, peut ramener à 8 jours. Mais vous devez pas oublier avec moi, monsieur, hier que la CENI a saisi la Cour constitutionnelle le 17 septembre, deux jours avant la convocation des élections présidentielles. Parce que vous comprendrez avec moi, que cette Cour a péché dans l'irrégularité totale. Et au-delà de ça, monsieur hier, la Cour constitutionnelle connaît le recours à l'interprétation de la Constitution, s'il s'est viré seulement du président de la République, du gouvernement du gouvernement, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, d'un dixième de membres de chacune des chambres parlementaires, des gouverneurs de province et des présidents de l'Assemblée provinciale. Cette famille, la fatalité de procéder à la saisie, à la cour. Et au-delà de ça, M. Zier, moi je dirais ceci. Cette cour, cette famille, j'étais déjà prononcé dans un forum là, dans ce monologue qui s'était tenu au camp militaire là-bas, et cette fénie s'était déjà prononcé pour la prolongation. Alors moi je le comprends.
Oui, maître Sauville. Oui, maître Sauville. On va avoir quand même quelques précisions, parce que par rapport à votre argumentaire, si nous lisons l'argumentaire de la Cour constitutionnelle par rapport à cette question de quorum, 5, 7, 9, bon, les débats, les chiffres, mais la Cour répond ou explique que dans cette affaire, elle avait déjà tenu une première plénière en bonne et due forme le 11 octobre 2016 en présence des 7 de ses membres, alors qu'un autre était en soins à l'étranger et un autre en congé. Alors, une autre plénière prévue le 14 octobre n'a pas eu lieu, faute de quorum. Deux juges présents à l'audience présentent, ne s'étant pas présentés, fort curieusement. Alors, le 17 octobre, constatant une nouvelle fois l'absence des autres juges, les cinq autres qui, quoi qu'il en soit, constituaient déjà une majorité à ce niveau-là, ils ne pouvaient que siéger. Donc, il n'y a pas un temps.
Non.
Voilà, donc, c'est
non, monsieur.
Ne pouvez pas.
Sur quelle base juridique, monsieur Gilles? Sur quelle base juridique?
Mais ça, c'est l'argument.
Dans le règlement d'ordre intérieur, monsieur Gilles, il est stipulé que cette cour ne peut siéger qu'au nombre minimum de 5. Et au-delà de ça, monsieur Gilles, moi, je me dis ici, cette cour devait se déclarer incompétente en la matière, puisque le quorum n'avait pas été atteint. Et d'ailleurs, nous devons considérer que le problème qui est ressorti de cette cour-là doit être déclaré nul de plein droit, puisque la procédure n'a pas été respectée et la cour a jugé dans une irrégularité totale. Et au-delà de ça, M. Fureau et M. Gilles, je voudrais que seul le peuple est souverain. La Cour constitutionnelle, les juges de cette Cour constitutionnelle ne sont pas les juges de la Constitution, puisque leur rôle primordial, c'est d'être le contrôle de la constitutionnalité. Si elle-même, cette Cour humaine, commence à violer son propre
Maître Sauville, là, dans l'argumentaire de la Cour, ils ont même évoqué un principe que les décisions de la Cour se prennent à la majorité des voix. Donc la majorité des cinq juges qui étaient là présents.
Mais d'après quel texte, monsieur Gilles, j'estime que les gens là, les juges qui ont été nommés à la Cour constitutionnelle, ils sont réputés compétents et qu'ils sont des grands professeurs. Et d'ailleurs, moi, je me la honte, c'est ignoble pour une grande république démocratique du Congo de voir le sens de la République agir dans ce sens-là.
Voilà, merci beaucoup, M. Sauville.
C'est quel mal de juridique,
merci beaucoup, M. Sauville. Donc, vous vous posez sans doute la question de savoir sur quelle base juridique les juges devraient, disons, siéger à un nombre qui était en dessous de 7 membres sur 9 que compte la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup, Maître Laurent. Pardon, Maître Sauville. Maître Laurent, vous êtes avec nous. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, je vous salue. Je salue tous vos auditeurs et particulièrement votre invité, Maître Kojo, que je connais très bien.
Alors, la question sur la base juridique que repose aujourd'hui, la question sur les quorums pour que, finalement, les juges puissent siéger. Et quand ça fait, est-ce que vous partagez l'avis de M. Sauville qui vient de passer?
Franchement, l'opprobre sur lequel la Cour s'est fait jeter aujourd'hui nous étonne et nous recule de plus de 50 ans en arrière. La Constitution de notre pays énumère limitativement les institutions ou les personnes qui ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle pour faire interpréter une disposition de la Constitution. Et dans cette énumération qui est exhaustive, la Commission électorale nationale indépendante n'y est pas incluse. Alors, d'où est-ce que d'abord la Cour, la CENI, a trouvé une brèche, un corridor pour pouvoir saisir la Cour constitutionnelle? La première question. Parce que n'oubliez pas que la forme, c'est la seule jument de la liberté. C'est la haute Cour que nous avions mise en place. Torpille les règles de la démocratie, chers amis, nous allons aux abîmes. Je l'ai dit dans un commentaire. Ne nous étonnons pas demain qu'un tribunal de paix qui siège à trois juges lorsque un des membres est absent, que deux juges prononcent une décision judiciaire en disant que la Cour constitutionnelle nous a ouvert une brèche, en disant que lorsque un membre ne se présente pas, deux juges autres peuvent prononcer la décision. Et là, nous allons dans un état d'anarchie.
Mais les décisions,
je rappelle ici.
Oui, les décisions se prennent.
Je vous en prie, hein.
Les décisions se prennent à la majorité de voix de membres présents.
Avant que les décisions se prennent à la majorité des membres présents, mais quels sont ces membres qui sont présents? La Constitution et le règlement intérieur prévoient quels sont ces membres. Ils doivent être totaux, ça veut dire 9, et à l'absence de 2 qui se sont excusés, 7 peuvent siéger. Or là, nous n'avions ni vu, on a vu ni 9, ni 7, et que donc le quorum n'est pas atteint parce que et le règlement et la Constitution ne prévoyaient pas qu'un tel nombre de juges prennent des décisions qui engage cette institution. Et d'ailleurs, pour moi, on ne peut même pas appeler ça arrêt, parce que la Constitution elle-même dit que nul n'est tenu d'exécuter une décision qui est illégale. Et tant entendu que cette décision-là viole nos lois, parce qu'au-dessus de la Cour constitutionnelle, nous avons la plus grande institution du pays, qui est le peuple. Parce que cette Constitution-là, ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui l'a mis en place, c'est la population qui a dit oui, et la population elle-même sait quel est l'instrument qui l'a mis en place pour que toutes les institutions et toutes les personnes y respectent pour qu'on aille vers une état de droit. Et quand 5 membres de cette prestigieuse institution que nous aurons d'ailleurs souhaité, torpillent leurs propres règles internes, je ne sais pas quelle est la leçon morale.
Alors, maître Laurent,
pour respecter la Constitution.
Alors, la question.
Le garant de la Constitution est le même et torpille la Constitution.
Alors, quelle est la valeur
que cette institution va donner aux institutions subalternes?
Et quelle est la valeur juridique aujourd'hui? Quelle est la valeur que devait avoir la décision de la Cour qui a siégé à 5 plutôt qu'à 7, hein, au lieu que ce soit 7.
Il y a un débat important. La première thèse, c'est que les décisions de la Cour constitutionnelle n'appellent aucun commentaire et sont exécutoires. Ça, c'est la première thèse. La deuxième thèse, c'est que nul n'est tenu d'exécuter une décision ou un mouvement qui est illégal. Et tant entendu que cette décision émane d'une composition irrégulière et que donc, à mon avis, cette décision est censée inexistante et ne peut appeler à aucune respectabilité auprès ni des institutions, ni du peuple, parce que la Cour n'a pas siégé conformément aux règles de procédure qui sont prévues et dans la Constitution et dans l'argument intérieur adopté par les mêmes membres de la Cour constitutionnelle.
Merci beaucoup, maître Laurent. Pour vous, les règles de procédure n'ont pas été respectées. Voilà pourquoi la décision par rapport à son caractère opposable à tous et qui n'appelle aucun débat ou encore elle est exécutoire à tous. Donc voilà, donc vous lancez également les débats. Maître Adrien nous a rejoint aussi depuis Kananga. Maître Adrien, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour, J.R. Lungembo. Bonjour à tous les auditeurs.
Je sais que le débat aujourd'hui, nous tombons dans les juridismes, mais vous avez suivi Maître Sombi tout à l'heure qui évoquait le caractère aussi, contraignant de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et cela a été rejoint par Maître Laurent également. Alors, Maître Adrien, quel est le commentaire que vous nous donnez par rapport à cette question?
Merci beaucoup, J.R., de la parole que vous m'accordez, tout en saluant la pertinence des arguments de mes deux confrères pour précéder. Il faut dire que l'arrêt de la Cour constitutionnelle, certes, sur le plan principe, n'appelle donc pas de commentaires, il est opposable à tous, il n'est pas appelable, mais dans le cas sous examen, la question que tout le monde se pose est celle de savoir comment cette décision-là a été prise. Et par rapport à la question que vous aviez à poser au confrère Laurent, je pense que ça n'appelle pas de débat lorsque nous lisons l'article entre 174 et 176 de la Constitution. On dit très bien qu'un tel arrêt est nul et nul effet. C'est-à-dire, il ne peut pas produire cet effet juridique. Pourquoi? Parce qu'il a été pris sous violation flagrante de la Constitution et des lois de procédure. Lorsque le juge, la loi vous dit que vous ne pouvez pas siéger en deçà de 7 juges, mais vous siégez au nombre de 5. Une cour référence. Une cour qui est appelée à donner des leçons aux autres juridictions et donc aux tribunaux et cours inférieurs. Mais lorsque vous vous illustrez par rapport à ça, donc tout juriste, toute personne qui se respecte ne peut pas prendre en considération une telle décision, donc un tel arrêt. On n'a pas besoin d'appeler quelqu'un de boycotter ça, mais lorsque nous lisons la Constitution, c'est elle qui nous donne le pouvoir de faire ça. Deuxièmement, lorsque vous lisez l'article 164, certes, la Constitution donne la possibilité à tout le monde de saisir la Cour constitutionnelle. Mais en quelle matière? C'est en cas d'inconstitutionnalité d'un acte ou d'une loi. Là, la brèche est ouverte à tout le monde. Mais dans les cas sous examen, nous sommes sur une matière spéciale. Et cette matière-là, la Constitution a aussi réglé en citant nommément les personnes qui ont qualité de saisir cette Cour. Mais lorsque nous penchons sur la loi, nous nous rendons compte que la Constitution ne donne pas le pouvoir à la CENI, ni moins encore à son président, de saisir la Cour constitutionnelle en cette matière.
Oui, maître Briand. À cette question, d'ailleurs, la Cour, dans son argumentaire, a fixé l'opinion en disant que la CENI, en tant qu'autorité chargée des élections, a ses devoirs de pouvoir saisir également la Cour. En tant que pouvoir organisateur des élections.
Malheureusement, ce n'est pas ce que la Constitution dit, ni aucune loi ne donne la possibilité à la CENI pour dire que non, parce que vous êtes pouvoir organisateur, vous pouvez saisir. Non, même la loi organique ne donne pas le pouvoir à la CENI. C'est là que moi je me dis, je suis totalement désillusionné, en suivant ce que la Cour constitutionnelle en train de faire, c'est un véritable octobre. Je vais sur le dos de tout le monde, c'est comme qui dirait aujourd'hui, tous les Kanangais disent, nous comprenons maintenant que ce sont les juristes qui sont à la base de l'anéantissement du non-développement de notre pays. Et là, cet argumentaire, moi je le partage aussi, lorsque une institution autre appelée à donner des leçons, je me demande, comme l'a dit maître Roland, qu'adviendra-t-il un jour lorsque un tribunal de paix ou un tribunal de grande instance siégeront avec moins de 3 membres? Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle va maintenant dire? C'est comme ça que nous disons que c'est une jurisprudence malheureuse qui est vraiment émise par la Cour constitutionnelle, et nous nous attendons tout simplement à la fin du monde pour qu'on puisse sauver encore ce pays.
Merci beaucoup, Adrien, 081-890-6515, pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook, où se tient d'ailleurs le même débat en ce moment. Vous qui nous suivez à l'étranger ou encore à travers le pays, n'hésitez pas à participer à ces débats sur la Cour constitutionnelle qui a siégé à 5 au lieu de 7, d'au moins 7, sur les 9 membres qui composent cette Cour. Le débat politique, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, c'est surtout sous vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiookapi.net.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous recevons dans cette émission notre invité, donc on l'accueille d'ailleurs, il vient de faire son entrée, Maître Kodjo Nduguma, qui est avocat. Bonjour, Maître Kodjo.
Bonjour.
Alors, au-delà de votre métier d'avocat, vous êtes également directeur des cabinets honoraires, du président à l'Assemblée nationale, et puis chercheur à la Sorbonne. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, alors d'entrée des jeux, quelle est votre réaction après avoir suivi les uns les autres, qui venaient à peine d'aborder la question sur les quorums qu'on devait avoir pour que la Cour constitutionnelle puisse siéger, le fait que la CENI a saisi la Cour pour solliciter au fait l'extension du délai, l'organisation des élections, alors pour les calendriers. Alors, quelle est d'abord votre réaction avant que nous entrions dans les vifs du débat?
Absolument. Je vais réagir avant même de pouvoir fixer le cadre. En fait, la question de la saisine de la Cour constitutionnelle par la CENI doit déjà être clarifiée, si vous le voulez bien. L'article 26 de la loi de 2010 sur la CENI dit ceci: les actions judiciaires, tant en demande qu'en défense, sont introduites, soutenues ou défendues au nom de la CENI par le président. Le président a rang de ministre et ainsi de suite. Donc, la question de la saisine par le président de la CENI de la Cour constitutionnelle ne doit pas jeter l'opprobre sur ce président-là. Parce que la loi organique lui dit de laisser en justice et ne précise pas quel juge doit pouvoir être saisi. Alors, une fois que le juge est saisi, c'est le juge qui doit pouvoir justifier sa compétence. Voilà pourquoi, sur la question de la forme, il est dit que la requête est dite recevable avant d'entrer dans la forme. Donc, la question qui nous divise ou qui nous diviserait de savoir pourquoi la CENI a saisi la Cour constitutionnelle est réglée par sa loi organique. Maintenant, c'est au juge de la Cour constitutionnelle de pouvoir justifier sa compétence. Je suis dans le raisonnement du juge de la Cour constitutionnelle qui dit que nous ne nous trouvions pas en l'espèce en matière d'interprétation. C'est l'article 161 de la Constitution. Et cet article dit « La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du président de la République, du gouvernement, du président du Sénat. » Et dans la liste exhaustive et limitative qu'il y a à l'article 161 en matière d'interprétation de la Constitution pour saisir la Cour, il ne figure pas la CENI. Et le juge de la Cour constitutionnelle se réfère plutôt en se disant que c'est une matière de contrôle de constitutionnalité. Et cette matière de contrôle de constitutionnalité est à l'article 158 de la Constitution, à un autre article que l'article 161. Donc c'est l'article 160 qui dit « La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. » La bonne question, c'est de savoir quel est l'acte sur lequel la Cour constitutionnelle a exercé un contrôle de constitutionnalité. C'est ça.
Alors, la CENI a demandé un report des élections.
Voilà. Est-ce qu'il y a-t-il eu un acte? Donc, j'ai déjà répondu avec les textes à la question sur la saisine. Et le problème de la saisine, c'est pas à regarder du côté de la CENI, mais du côté du juge qui doit pouvoir justifier
alors,
sa saisine.
Alors, restons maintenant du côté du juge. La loi relative au fonctionnement de la Cour constitutionnelle donne, limite même le nombre de juges qui doivent siéger et, au besoin, les quorums à atteindre pour prendre une décision. On parle d'au moins 7 membres sur les 9. Et là, les juges ont siégé autour de 5 juges seulement sur 9.
Mais il faut se poser la question comment ils en sont arrivés à 5. Je dis d'abord la loi. L'article 90 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle dit ceci. La Cour ne peut valablement siéger et délibérer qu'en présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de deux d'entre eux au plus dûment constaté par les autres membres. La question ici, c'est le principe. Maintenant, il y a eu un incident d'audience que le président de la Cour constitutionnelle a voulu faire constater. Quand il a ouvert la séance, à la date que vous aviez donné le 11 octobre, il savait bien qu'il n'était pas dans la totalité de la composition. Mais pourquoi l'a-t-il fait? Il y a eu une intelligence derrière. Et il a convoqué une séance subséquente.
Le 14.
Alors, comment est-on arrivé à 5 juges? Au lieu de condamner la majorité des juges qui ont rendu l'arrêt, essayons de comprendre qu'est-ce qui nous a amené à cela. Si l'absence était volontaire de la part de ces juges pour des questions de clause de conscience, qu'ils disent qu'ils ne veulent pas participer, entre guillemets, à une forfaiture, il y a l'article 92 de la Constitution. L'article 92 de la loi sur le fonctionnement de la Cour 013/026 du 15 octobre. Qui dit ceci? Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er du présent article, toute opinion dissidente ou individuelle est intégralement reproduite en fin de l'arrêt. Elle comporte le nom de son auteur. Ça veut dire que l'absence volontaire, ou je peux encore dire involontaire, mais organisée de ces juges pour des questions d'opinion ou de questions d'intime conviction, est réglée dans la loi. Et on peut se dire, est-ce que l'absence ne va pas au-delà de ce que la loi a prévu et qu'ils n'ont pas voulu constituer un droit de veto? Parce qu'il faut voir l'intérêt de l'administration de la justice,
C'est-à-dire, il y a une cause qui est pendante devant un cours des tribunaux, c'est question de la vie récevable dans sa forme ou non fondée dans son fond, plutôt que de pouvoir se dire nous bloquons. Tant que nous ne serons pas là, la Cour constitutionnelle ne pourra pas siéger valablement ni pouvoir rendre son arrêt. Alors, ils auraient dû, parce que les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Je ne vais pas relire toute la Constitution, on est dans une émission, on n'est pas au prétoire. Les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Est-ce que les juges absents ont-ils accompli le devoir de justice ou ont-ils accompli un délit de justice? Et s'ils ont agi de la sorte, ils ont obéi à quelle loi? Maintenant, ça c'est la question qui reste posée.
Ceux qui ont agi pour prendre cet arrêt, ils ont agi par rapport à quel
base juridique? Maintenant, nous arrivons à cela. J'avais dit que c'était bon de présenter
les uns et les autres sur quelle base juridique.
J'avais dit que c'était bon de présenter les cadres, les trois éminents confrères qui sont passés, notamment Maître Choumé que je connais bien. Ils ont posé le problème. Maintenant, moi, je replace le cadre. C'est de dire comment est-ce que le juge a justifié sa compétence avec cinq membres seulement. Le juge, la Cour constitutionnelle s'est référée à l'ordonnance du 14 mai 1886 de l'administrateur général du Congo. Et cet arrêt et cette ordonnance qui a valeur au moins législative, parce que la législation précoloniale, si vous lisez les codes d'Arcé ou même si vous apprenez le droit public que moi j'ai appris pendant un temps à l'UNITIN avec le prof Bounoué, il vous dira que ces ordonnances ont une valeur au moins législative. Et donc, le juge de la Cour constitutionnelle se trouve face à un cas prévu à l'article 1er de cette ordonnance du 14 mai 1886 pour dire que lorsque une matière est portée à la compétence des cours et tribunaux, mais que cette matière n'est pas régie par la loi, on se réfère aux coutumes locales, aux principes généraux de droit et à l'équité. Et donc, le juge de la Cour constitutionnelle, dont je suis le raisonnement, je ne suis pas un de leurs délégués, je suis avocat.
Oui, mais Kodjo,
il s'est basé.
Mais Kodjo, tout à fait, vous développez des théories, mais juste une question avant qu'on reparte de l'autre côté du standard. Dans l'argumentaire noté et évoqué par la Cour constitutionnelle, il est dit qu'aujourd'hui, les décisions au niveau de la Cour se prennent à la majorité de voix. Donc pour eux, je trouve que, bon, pour justifier en fait, le fait d'avoir siégé à 5, c'est parce que la majorité de les décisions se prennent à la majorité de voix.
Oui. Si je lis entre les lignes, parce qu'on sait aussi la politique et la justice constitutionnelle est une justice politique, ça il faut le dire. Voilà. Donc, ça veut dire que ces membres qui ont dû s'absenter avaient déjà dû émettre une opinion qui était contraire à celle de la majorité avant même qu'ils puissent siéger. Et si je lis entre les lignes, et donc, qu'est-ce que le juge, la majorité fait? Il dit, bon, de toutes les façons, nous devons siéger pour ne pas bloquer l'appareil judiciaire, parce que ce n'est pas prévu qu'il y ait une absence de la sorte. Et ils ont basé leur attitude sur l'ordonnance du 14 mai 1886. Et quand nous sommes dans les instances délibérantes, les séances subséquentes ont leur importance. Et le juge de l'action est aussi le juge de l'exception. Il y a une exception qui s'est créée. Il y a un incident d'audience, le fait que des juges présents à Kinshasa ne se présentent pas. Alors, la majorité a pu prendre cette décision. Maintenant, l'article 90 de 90 de la loi sur la Cour constitutionnelle est bien là en disant qu'on peut siéger valablement. Maintenant, c'est l'effet de l'arrêt. C'est les trois questions.
On va éliminer tous les faits de l'arrêt. Le temps de retrouver Maître Jean-Paul qui est en Bandaka, Steve Abeli et Maître Okito à Kinshasa. Maître Jean-Paul, vous nous avez rejoint. Bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bienvenue, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capo.
Quel est votre avis après avoir suivi les uns les autres et ainsi que notre invité, Maître Kodjo?
Je crois que ce que nous disions l'autre fois tantôt, avec concernant la saisine de la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de la Constitution, et la saisine de la Cour constitutionnelle pour les constitutionnalités, nous avons tout éclairé. Le président de la CENI nous avait dit qu'il y a plus à voir que la CENI a saisi, la Cour constitutionnelle. Et d'ailleurs, de façon illégale, a toujours voulu apprendre la Constitution. Et je rappelle hier, la mission principale de la Cour constitutionnelle, il faut savoir que la Cour constitutionnelle, c'est la gardienne de la Constitution et de toutes les lois de la République. je veux dire que l'intervention de votre invité.
Oui, maître Jean-Paul, on a du mal. Oui, on a du mal.
Comment je peux dire que je suis même enceinte parce qu'il y a eu célérité. La co-conjonction, une brèche, une digne jurisprudence, il souffle. Qui sera juriste, dépagera les cours des tribunaux. On ne peut même pas se référer à cet argent. Ça ne peut pas y exister aussi longtemps que la composition n'était pas régulière. Voire même la saisine de la Cour de la CENI. Bon, est-ce que votre invité peut nous dire pour quel motif la CENI avait saisi la Cour constitutionnelle? Est-ce pour l'interprétation de la Constitution ou c'était pour la constitutionnalité par tous les citoyens congolais?
Ben voilà, parce qu'il s'agit d'une question directe, les temps, maître Koto, est-ce que vous, quel motif, voilà, la CENI avait saisi la Cour constitutionnelle?
Article 73 de la Constitution, qui dit que le scrutin est convoqué par la commission électorale indépendante.
Et 90 jours avant.
90 jours
avant la fin de l'élection.
Alors.
Avant la fin du mandat.
Oui, alors, les actes de la CENI pour se conformer à cet article 73 devraient tous être compris avant les délais fixés par la Constitution. Et le fait que la Cour a commencé des actes de préparation, des actes préélectoraux, et que la CENI se rend compte que ces actes vont déborder du champ temporel du terme constitutionnel prévu à l'article 73, la CENI a introduit une requête pour dire, pour demander à la Cour si les actes qu'elle poserait après les 90 jours seraient toujours constitutionnels ou ne le seraient pas.
Est-ce que ça fait la route de saisir la Cour 48 heures avant le délai constitutionnel qui évoquait les 90 jours avant la fin du mandat pour convoquer l'électorat?
Bon, il a
48 heures avant.
Mais on est avant le 19 décembre, on est avant le 19 septembre, pardon. Nous sommes toujours avant le 19 septembre. Moi, j'ai pas évoqué la question de ces
c'est pas constitutionnel.
Oui, mais justement, j'ai posé la question ici parce que la Cour a dit qu'on l'a saisie en matière de contrôle de constitutionnalité. Il faut savoir, le contrôle de constitutionnalité doit porter sur un acte. Alors, l'acte qui sort en premier lieu, c'est les opérations électorales et le calendrier électoral. Quand vous lisez, même quand vous écoutez, parce qu'il n'y a pas eu encore d'arrêt publié, quand vous lisez le raisonnement du juge dans le prononcé, il autorise la CENI à pouvoir publier le calendrier électoral. Et même, je vais dire, là on n'est plus dans la Constitution, mais on est dans la résolution 2277. Les points 18, si je ne m'abuse, demandent à la CENI de pouvoir publier un calendrier complet et révisé portant sur toutes les opérations électorales. Alors, la résolution 2277 le demande, la CENI doit poser des actes au-delà du terme de l'article 73 de la Constitution, et c'est ces actes-là qui font l'objet du contrôle de constitutionnalité.
Voilà, donc le motif est le contrôle de constitutionnalité. Maître Jean-Paul, vous avez la réponse?
Bon, sa réponse ne me convient pas. Sa réponse ne me convient pas. Ce que je voulais seulement faire comme un appel patriotique. C'est pour dire à la Cour constitutionnelle et à votre intervenant, à sa qualité d'avocat, qu'il ne peut pas faire une apologie sur une turpitude qui est d'ailleurs, va rester indéfectible dans l'arsenal juridique congolais. La Cour constitutionnelle n'est pas là pour être fragilisée par le pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire doit jouer de son indépendance. Et non pas à tout moment poser des actes comme si, bien sûr, nous sommes dans un état de police où des fois les lois sont violées. Mais je peux vous dire qu'on ne peut pas être conduit au 21e siècle que nous sommes, dans la dictature.
Merci, merci beaucoup, maître Jean-Paul. Alors, on va prendre Steve qui est à Béni. Steve, bonjour. Monsieur Steve, vous êtes avec nous?
Et bonjour, allez,
Steve.
Ça a été coupé.
Voilà, Steve, on va
oui, allô?
Oui, dynamisez un peu la voix, si vous pouvez dynamiser la voix, votre voix.
Oui, j'ai dit, je suis Steve, j'ai dit, je remercie vraiment à tous les auditeurs, parce que je viens d'écouter tous ceux qui nous disaient un peu des livres, mais ça ne nous convainc pas, ça prouve réellement que dans ce pays, il n'y a pas une justice. Donc,
qu'est-ce qui vous convient pas, Steve? Est-ce que la procédure pour la saisine de la Cour constitutionnelle, encore faut-il faire la part des choses, comme l'a dit notre invité? Est-ce qu'on peut saisir un cas pour ce qui concerne l'interprétation de la Constitution, ou encore saisir la Cour pour l'inconstitutionnalité, le contrôle de l'inconstitutionnalité?
Non, pour moi d'abord, je ne veux pas aller sur
la Cour.
Moi, je vais d'abord aller sur la loi qu'on parle de la majorité, de le nombre de juges qui doivent siéger la majorité. Là, je dois aller parce que si vous vous rappelez très bien, c'était une fin de samedi, ils avaient convoqué la Cour, ils étaient nombre de 5. Ils se sont dit qu'ils sont incompétents parce que les nombres, les grands n'étaient pas à 7. Mais ils viennent encore les lundis pour convoquer, ils sont à 5. Ils disent, mais là, comme ils étaient indiqués par une jurisprudence de 1970, combien pour dire que non, avec une jurisprudence, il fallait que la Cour puisse siéger. Donc, ça prouve que ce n'est qu'une mascarade, ce n'est pas vraiment une réalité. Moi, je ne suis pas juriste, mais tous ces arguments-là, donc, c'est référé pour une jurisprudence, je trouve que ce n'est qu'un outil de la majorité pour vouloir. Donc, c'est la loi qui confirme pour dire que la justice plus forte est toujours la meilleure au Congo. Donc, c'est ça. Donc, je suis désolé, déçu de ces arguments.
Voilà, merci.
Il n'y a pas la justice à
faire. Merci beaucoup. Donc, pour vous, ce qui vient de se passer, pour votre suffisance, qu'on a difficile à vivre une justice objective dans notre pays. C'est ça votre inquiétude, hein?
Oui.
Merci beaucoup, Steve. Alors, Maître Okito, merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Ok, merci, M. G. Mais sans vous mentir, d'abord, je salue l'invité.
Merci.
Mais sérieusement, pour lui, parce que c'est un avocat, si c'était seulement un politicien, on pouvait déjà le mettre dans l'index des gens non grâce à notre pays. Parce que s'il doit continuer à soutenir l'inconstitutionnalité, telle qu'une constitutionnelle, pour nous, nous comprenons que ce n'est pas une cour constitutionnelle, ça devient comme si une cour politique et non pas cour constitutionnelle, parce que tous les arrêts, s'il vous plaît, rendus par cette cour-là, n'ont jamais fait l'unanimité de l'opinion congolaise, même de ceux qui sont dans ceux qui sont juristes ou quoi. Et aujourd'hui encore, ça devient noir sur blanc que ce n'est pas une cour pour les droits, mais c'est une cour pour la politique de ceux qui sont au pouvoir. Alors c'est très malheureux parce qu'un jour, même les gens de cette cour-là, ils seront eux-mêmes victimes un jour.
Oui, Maître Okito, il y a deux arguments qui se dégagent dans nos échanges et aussi dans nos réflexions. Et nous référons d'ailleurs à l'argumentaire de la Cour constitutionnelle quant à cette problématique. On se rend compte que pour la Cour, elle était, disons, le fait de siéger à 5, c'est justifié. Et la saisine de la CENI également, donc il n'y a pas de problème quant à ce. Alors, vous, en tant que juriste, que pensez-vous de l'effet que devait produire cette décision, l'effet juridique?
Non, mais je vous dis, ils ont gelé leur propre règlement intérieur et même la loi qui organise cette même cour. Mais, monsieur J.R., dans le cours et tribunaux, quand nous partons pour plaider, lorsque la composition n'est pas complète, ça ne siège jamais. Mais comment voulez-vous là où on peut penser encore ceux qui sont beaucoup plus hauts en justice puissent siéger incomplet devant une telle cour qui est connue mondialement et finalement vraiment. Qui pouvons-nous encore faire confiance dans notre pays à ce niveau-là, hein? Voilà, donc déjà la forme, quand la forme ne tient pas, le reste, on a plus besoin de cela. Lorsque la cour n'a pas déjà, n'a pas une composition complète, elle viendra seulement dans le prétoire, dans la salle d'audience, pour dire voilà, étant donné que la composition est incomplète, nous ne pouvons pas siéger. Ça se limite à ce niveau-là. Mais quand vous regardez à cette forme-là, ça ajoute encore à ce niveau. qui n'a pas qualité de saisir la Cour constitutionnelle. Or, la Cour a été saisie par la CENI.
Oui, la CENI n'a pas qualité de saisir la Cour quant à l'interprétation de la constitutionnalité, pardon, de la Constitution. Mais au-delà de cela, s'il s'agit du contrôle des actes qu'il veut poser,
même le contrôle.
Oui, le contrôle.
Moi, je disais, si on avait la justice, excusez-moi, M. Gilles,
oui.
Si on avait la justice vraiment dans notre pays, dès lors que la CENI a pris seulement l'option là, on allait arrêter directement les procureurs près de cette cour d'appel.
Non, non.
Il faudrait déjà l'arrêter pour dire, monsieur, toi tu viens. C'est comme si un voleur, si vous dites que je viens quand même voler les maniocs ou bien les cartons de savon de ces commerçants, mais la police, permettez-moi que je vole ça. Donc, l'autre jour, j'aurai le moyen, je viendrai restituer.
Alors, Maître Okito, donc pour vous, vous estimez que cette décision ne produira aucun effet, donc n'a aucun effet juridique. Maître Okito ?
Voilà.
Voilà, je disais, donc pour vous, vous craignez comme les autres que cela ne puisse pas avoir, cette décision puisse avoir une valeur.
Il n'y a aucune valeur juridique tant à nous, au peuple congolais, et aux juristes avertis, et qu'ils soient honnêtes. Ça n'a aucun impact au niveau de notre pays.
Merci beaucoup,
Maître. Nous allons faire mal à
compte. Merci beaucoup, Maître Okito. Voilà, on comprend qu'il y a ceux qui sont des conservateurs de la Constitution. Floribert nous a rejoint également, dit la Guibélégué. Maître Opila Guémena. Floribert, bonjour.
Bonjour, M. Gérard.
Quel est votre avis?
Oui, je disais, l'arrêt de la Cour n'a aucune valeur juridique. Faute d'une composition. L'invité au studio là présent, il est en train de soutenir l'arrêt de la Cour. Est-ce qu'il peut discuter de cette loi-là afin de nous donner la volonté du législateur en prévoyant les 9 membres ou 7 membres siégeants?
Voilà, merci.
Pour
merci
rendre la décision.
Voilà, merci beaucoup Floribert pour cette question. Alors, Maître Kodjo, vous avez suivi les uns les autres. Hein. Finalement, il y a beaucoup de choses que vous avez dites qui ne rencontrent pas l'assentiment des uns et des autres. Et surtout, votre façon d'interpréter d'ailleurs la Constitution, et certains juristes ne trouvent pas d'objectivité dans cela. Alors, que répondez-vous aux uns aux autres?
Moi, je dois dire ma façon de lire la Constitution, parce que je fais une lecture littérale et dans le contexte. Et puis, il y a toujours ce problème de sentiment de justice. Il y a tout un cours de psychologie judiciaire sur les attentes des justiciables ou du peuple face à une décision, surtout de cette portée-là. Alors, je dois dire quand même, on n'est pas en matière électorale ou référendaire. Ça, c'est l'article 110 de la loi sur la Cour constitutionnelle, qui dit que la Cour est saisie conformément à la loi électorale ou référendaire. Elle siège au nombre de 3 membres. Donc, nous ne sommes pas en matière électorale ou référendaire, on est en matière de contrôle de la constitutionnalité. C'est pour dire que la composition de la Cour constitutionnelle est de 9 membres, mais cette composition est modulée en fonction des affaires. Pour dire quand même que nous sommes, c'est vrai, je l'ai lu, et moi je n'ai pas menti ici, j'ai un serment. Nous avons lu l'article 90 de la Constitution, de la loi sur la Cour constitutionnelle, pour dire que c'est tout au plus autant de membres. Mais c'est pour dire que au sein de la composition de la Cour, il y a une modulation des membres en fonction des matières en présence. Ça, c'est une autre idée, c'est extra causam. Maintenant, comment devons-nous considérer l'attitude des éminents juges qui n'ont pas voulu siéger? Parce qu'on ne sait pas savoir si c'est une auto-récusation, parce que visiblement ces juges avaient une opinion contraire à celle de la majorité des membres, et cette opinion n'a pas été émise dans la forme et
donc dans le cas dès lors qu'ils pouvaient même être présents. Leur position ou leur opinion n'allait pas influencer la décision, la majorité.
Vous le dites en termes de...
Plus simple, plus
simple. Voilà. Alors, ce cas est rare. Ça s'est produit en France avec Simone Veil, qui était membre du Conseil constitutionnel, qui s'était mise en congé pour le campagne, la campagne sur le oui dans, comment on dit, dans la constitution européenne. Et puis il y a eu Roland Dumas qui a été également mis en cause dans l'affaire Elf. Et une partie de la classe politique, il était président du Conseil constitutionnel, demandait sa démission. Ce sont des cas extrêmement rares. C'est pour cela qu'il y a eu le recours à l'ordonnance de l'administrateur général du 14 mai 1926. Alors maintenant, cette question, c'est, je ne suis pas trop court. Je donne ici le raisonnement de la Cour. Alors, l'article 168 de la Constitution.
Est-ce que ce raisonnement tient la route? C'est ça le problème.
Mais,
ça tient la route ou ça tient sur une base juridique ou non?
Bon,
parce que quand vous dites que vous vous référez au raisonnement de la Cour,
oui.
J'évoquais tout à l'heure l'argumentaire de la Cour. Et un argumentaire développé par la Cour. Qui les raconte, c'est pas le sentiment de ce qu'ils appellent la majorité, de l'unanimité, de la population et aussi un bon nombre de juristes.
Ça c'est une question de sentiment de justice. Voilà, nous nous trouvons là. Ils se sont référés à l'ordonnance du 14 mai 1886 qui demande aux juges, pour des cas du genre où d'autres juges ont séché la cour, c'est impensable. Il demande de recourir à des sources secondaires, les principes généraux du droit, l'équité et la coutume. Bon, quoique la coutume est un peu plus.
La jurisprudence.
Il faut même dire qu'en 2006, en matière électorale et constitutionnelle, la Cour suprême de justice avait été saisie par la CELI. Donc, ils se sont dit. Il y a
et la Cour suprême avait même fixé le délai dit dans 45 jours.
Absolument.
Mais actuellement,
dans 45 jours, contrairement aux 15 jours de l'article 71.
Et maintenant, la Cour demande à la CENI, d'élaborer un nouveau calendrier électoral aménagé dans un délai objectif non défini. Et pourtant, la Constitution parle de 90 jours après la fin du mandat. Voilà. Il fallait quand même qu'il fixe l'opinion par rapport à ce délai, comme il l'avait fait par le passé.
Je voudrais que nous puissions, quand l'arrêt sera rendu public, voir quels sont les mécanismes de contrôle que la Cour elle-même s'est donné pour contrôler cette situation exceptionnelle.
Parce que c'est l'arrêt 338 de la...
Oui, c'est dans un journal, c'est pas dans le journal officiel, donc c'est pas, pour moi, juriste, la publicité qu'il faut. Alors, il est prévu dans les vécus des différentes cours constitutionnelles et conseils constitutionnels plus avancés que nous. Hein. Nous, notre cour constitutionnelle n'a même pas plus de 2 ans. Et donc, elle va pouvoir travailler à légitimer son travail, ses verdicts et le pouvoir suprême.
Ça ne constitue pas une excuse. Hein,
bon, c'est une personnalité.
Une personnalité qu'on respecte quand même dans la matière. Quoi.
Il existe la coutume constitutionnelle dans la grande famille romano-germanique dans laquelle nous faisons partie. Et ces us et coutumes permettent aux juges d'ouvrir des situations exceptionnelles. Et ça a été fait en 2006 et ça a été fait aujourd'hui. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce qu'on a donné un blanc-seing à la CENI ou est-ce que le juge s'est auto-régulé pour savoir à quel moment il doit pouvoir contrôler.
Mais comment vous voulez appeler ça quand la Cour demande à la CENI d'organiser ou d'aménager un calendrier dans un délai objectif et raisonnable. Et pourtant, la Constitution a déjà fixé la fin du mandat. Combien de temps ça peut prendre une période intérimaire?
Bon, là, vous me demandez d'entrer dans l'intime conviction du juge. Moi, je ne suis que dans le raisonnement du juge. Alors,
mais en droit.
En droit.
Il y a la Constitution, il y a l'esprit, il y a la lettre de la Constitution. Et nous respectons les valeurs intégrales de la Constitution.
Oui, moi je me dis, ça c'est mon opinion en tant que citoyen ou en tant que juriste, je me dis que cette situation exceptionnelle devrait faire l'objet des mesures constitutionnelles dans l'arrêt pour pouvoir savoir à quel moment
on
contrôle. Parce qu'en Allemagne, par exemple, la Cour fédérale constitutionnelle allemande s'auto-saisit de certaines questions politiques. Il ne faut pas simplement se dire que la Cour constitutionnelle, elle n'est même pas dans l'ordre judiciaire ni dans l'ordre administratif. Ailleurs, on parle de conseil constitutionnel, ce n'est pas dans la magistrature. Donc, il y a un certain nombre de règles non écrites, parce que même pour le conseil constitutionnel français que nous avons copié, il n'y a pas de texte d'organisation
Il y a la constitution de 1958, mais il n'y a pas de texte d'organisation à part deux arrêts. Donc, il y a une certaine latitude qui est laissée aux juges constitutionnels.
C'est vrai, voilà, pour moi, on considère... Mais on va revenir à vous le temps de prendre les trois derniers, puis on revient pour la conclusion, si vous voulez garder ça, peut-être ne pas oublier. Maître Mupila, qui est à Gemena, Joséphine à Boston, allait à Lumbashi. Maître Mupila, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Ok, bonjour, J.R.
Quel est votre avis?
Ok, merci beaucoup. Avant de donner mon avis, j'ai dit clairement que je soutiens absolument la position des invités, votre invité, Conseil Kodjo. J'ai vu, moi, souvent, je considère le droit ou bien la loi comme une grande forêt. Et après que l'arrêt a été rendu, le 17, j'ai aussi pensé à réfléchir sur cette question et lire la composition des juges qui ont rendu cet arrêt. Bien sûr, je suis allé à la bibliothèque, j'ai vu le doctrinaire Robert Yanda dans son ouvrage L'ordre judiciaire congolais. À la page 50, là où il a parlé délibéré et du prononcé des arrêts et des jugements. Et à la page 52, il a répondu à cette question. Écoutez ce que le doctrinaire a dit, Robert Yanda. Il a dit ceci. Il a dit un constitutif de faute disciplinaire, le fait pour le juge de ne pas rendre une décision dans les délais impartis par la loi, article 47, alinéa 2 de la loi organique numéro 06, page 20 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15, page 014 du 1er août 2015. Et écoutez ce qu'il a dit, les confrères. Toutefois, dans une juridiction dont le nombre de magistrats est largement insuffisant. Toutefois, dans une juridiction dont le nombre de magistrats est largement insuffisant, ceci peut être un cas de force majeure. Donc, je considère que non, les décisions rendues, la décision rendue le 17, est considérée comme un cas de force majeure que nous devons tenir les conséquences que l'arrêt rendu à sa valeur juridique, parce que le juge s'est retrouvé devant un cas de force majeure où certains se considéraient par rapport à leur pensée propre, comme soit des politiciens, ils sont retirés. Alors le fait pour le juge de voir que non, la CENI avait un problème, il ne devait pas laisser ça partir comme ça, il ne devait pas prendre une décision, que cette décision devait être considérée comme un cas de force majeure pour sauver la RDC. Et par là, je ne partage pas la vie des confrères Sauville, moi, à cause de Laurent, plus à cause des confrères Landry, moi, à cause des confrères Jean-Paul de Mbandakala, je soutiens absolument la vie des confrères Kodjo qui est sur le plateau, parce qu'il pousse un raisonnement en considérant que non, les droits, c'est comme une vaste forêt où nous devons pousser notre raisonnement par rapport à la loi, par rapport à la justice, par rapport à la doctrine, par rapport à l'équité, par rapport à tout ce qui est source de droit.
Merci beaucoup. Ma position, j'ai. Merci beaucoup, Maître Mupila. C'est vrai, aujourd'hui, c'est pratiquement un débat qui concerne au plus haut point les juristes. Qui ont accepté d'ailleurs d'intervenir dans cette émission. On va prendre Joséphine, justement, qui est à Boston. Madame Joséphine, bonjour. Madame Joséphine, vous êtes avec nous? Voilà, on va discuter avec la ligne de Madame Joséphine. On va prendre Alain, qui est à Lubashi. Alain, bonjour.
Bonjour, Gilles. Comment vous allez?
Oui, très bien, merci. Et quel est votre avis par rapport à ces niveaux de débat?
Je dis d'abord bonjour à Monsieur Kodjo qui est sur le plateau.
Bonjour.
J'ai bien suivi son intervention, mais je dois réaliser quelque chose. Mm-hmm. Vous savez, nous sommes des juristes, nous avons étudié le droit, et il y a des gens qui nous suivent à la radio. Mm-hmm. Mais prenons pas des exceptions comme étant des règles générales du droit. Pourquoi je le dis? Je veux le préciser. La loi stipule ceci. Nous avons tous étudié le droit. Que lorsque quelqu'un saisit une juridiction, il faut d'abord qu'il y ait ce qu'on appelle la qualité. S'il n'a pas qualité, il faut qu'il y ait intérêt. On se pose la question, la loi est claire sur ce point. Est-ce que la CENI a telle qualité pour saisir la Cour constitutionnelle? Ne cherchons pas les exceptions. La Constitution et la loi organisant la Cour constitutionnelle est tout à fait claire et elle énumère ceux qui sont habilités à la saisir. Et deuxièmement, la composition des juges n'a pas été complète, elle n'a pas été totale. Est-ce que dans ce cadre, les juges pouvaient-ils siéger Je pense que si Maître Marcel Liao était encore vivant, ou Thiello Estengui et les autres éminents juristes que nous connaissons, ils n'auront pas abondé dans ce sens-là. Et ils n'auraient pas été d'accord avec ce que nous, aujourd'hui, érigeons en une vérité juridique. Pour moi, je me dis que la CENI n'avait ni qualité pour saisir la Cour constitutionnelle, et la Cour constitutionnelle devait nécessairement se déclarer incompétente et dire que la requête était irrécevable. C'est clair.
On n'a pas eu la CENI. Merci beaucoup, Alain. Alors, on n'a plus assez de temps. On va conclure avec notre invité, Maître Kodjo. On vous dit quand même merci d'avoir accepté de cette émission. Mais en conclusion aujourd'hui, donc on peut dire que la saisine de la Cour par la CENI se justifie, dès lors que la CENI a saisi pour un autre motif qui est direct valable, comme vous l'avez dit, si nous devons comparer à cette même saisine en 2006. Donc la CENI avait le plein droit de saisir la Cour constitutionnelle et la décision prise pourrait éventuellement avoir des effets juridiques.
Oui, la CENI a saisi la Cour constitutionnelle sur base du devoir constitutionnel de l'article 73 et le président a agi sur base de l'article 26 de la loi de 2010 sur la CENI qui lui permet d'ester en justice. La question de la qualité et de l'intérêt, c'est à l'appréciation du juge que nous saisissons. Parce que c'est le juge qui, quand il est saisi, dit l'action réservable. Et il dit, si elle dit l'action non réservable, elle dit pour défaut de qualité, pour défaut d'intérêt, ou parce que le juge, étant juge de sa propre compétence, dit « je ne suis pas compétent pour ce faire ». Donc le grief n'est pas du côté de la CENI. Et le juge dit que je statue en matière de contrôle de constitutionnalité. Et le contrôle de constitutionnalité porte sur quoi ? Sur les actes que la CENI a commencé à poser en Sud-Oubangui et sur les actes que la CENI veut pouvoir poser par la suite en publiant le calendrier électoral sur base même de la résolution 2277. Maintenant, là où le juge n'a pas encadrer la situation exceptionnelle, c'est que peut-être c'est le consensus politique du dialogue qui fixe ce calendrier. Mais ça, je dis en tant que juriste, le juge devait aussi bien gérer le principal que l'accessoire. Mais l'article 168 de la Constitution dit que l'arrêt est
opposable.
Et c'est tout acte déclaré non conforme à la Constitution qui est nul de plein droit. Donc la baïonnette intelligente ne peut s'appliquer dans ce cas, parce que la seule personne qui peut déclarer non conforme à la Constitution,
c'est la Cour constitutionnelle. Maître Kodjo, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que vous êtes avocat et directeur de cabinet honoraire au bureau du président de l'Assemblée nationale. Merci également à vous tous qui avez participé à ce débat. Merci à Sylvain Matundou, à Pierre Lavégie, à Julie Fézabourouda qui ont concouru à la production de cette émission, coordonnée et présentée par J.R. Longuebo sous la supervision de Martin Sebou Jangoué. On se retrouve demain. À très bientôt.